Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous méditions la parole sur donc un texte que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Et nous allons lire d'abord dans l'Évangile de Luc, c'est très bref. Évangile de Luc, au chapitre 1er, et puis nous irons un peu de page en page. Alors, ça sera très très bref pour ce passage. Luc, chapitre 1er, verset 37. Et là, on peut dire amen. Hein. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors, on le chante, ça. Hein. Rien n'est impossible à Dieu, etc. Hein, on le connaît bien. Mais je pense qu'il faut le vivre, mes frères et sœurs. Et l'expérience est là pour nous amener à vivre que rien n'est impossible à Dieu. Premièrement, ça nous fera du bien à nous-mêmes de voir que nous avons un Père Céleste extraordinaire au-dessus de toutes nos limites et nos capacités. Et puis ça nous permettra aussi de rendre témoignage que rien n'est impossible à Dieu pour ceux qui en ont besoin. Donc, double sens. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Ça, c'est la première proposition que je vous fais. Nous allons en faire une deuxième. Figurez-vous, j'ai intitulé notre méditation, je lui ai donné naturellement un titre, hein, « La foi audacieuse ». Parce que c'est ça, hein, c'est passer nos limites, dépasser ce que nous voyons, les réactions de notre sensibilité ou de notre du fonctionnement de nos sens, pour aller dans ce sixième sens qui est la foi, on pourrait le dire là. Moi je dirais même c'est pas le sixième, c'est le premier. Pour les chrétiens, c'est le premier. Alors, nous allons lire maintenant dans Deux Rois, s'il vous plaît. Livre des Rois, deuxième livre des Rois, et au chapitre 7. Chapitre 7, et je vous donnerai un peu le contexte parce que je ne veux pas lire tout le chapitre. Voilà. Deux Rois 7, verset 1er. Élisée le prophète, on le connaît, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. La suite. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alors, je remets ça dans le contexte pour ceux qui ne sont peut-être pas familiarisés avec l'Écriture sainte. Le contexte, c'est tout simplement le roi de Syrie, qui s'appelle, me semble-t-il, Ben-Hadad, voilà, roi de Syrie qui attaque le peuple d'Israël et qui attaque la capitale du royaume d'Israël, qui est Samarie, capitale du nord, Jérusalem, capitale du sud. Mais bon, c'est tout le contexte historique, naturellement. Et cet assiègement de la ville de Samarie est tellement terrible, tellement long, que finalement il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vivres. Les gens sont même à la pensée peut-être de se manger les uns les autres. Ils ont tué tout le bétail, ils ont tué tout ce qui pouvait en effet être comestible, et c'est la misère noire, c'est une famine épouvantable. Alors le prophète Élisée, suscité par l'Esprit de Dieu, va se mettre devant le peuple et il va dire ce que nous avons lu, écoutez la parole de l'Éternel. Et je veux y ajouter, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi Dieu parle, demain à 7 heures, on aura de la farine, on aura de l'orge, on aura de l'eau, je multiplie, on aura de la viande, on aura tout ce qui est nécessaire. Alors il y a le premier ministre du roi d'Israël, c'est l'expression très hébraïque, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi. Donc c'était en quelque sorte un haut personnage, l'officier, une sommité dans le royaume. Alors il s'est placé devant le prophète et lui a dit, dis donc, ce que tu es en train de dire, non mais tu nous prends pour des demeurés, il y a quelque chose qui va pas. Et il dira cette phrase, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, c'est-à-dire des ouvertures et que ça tomberait là comme ça du ciel, etc., pareille chose arrivera-t-elle. Là, c'est un défi à la fois. Soit on croit la parole de Dieu, on croit le prophète de Dieu pour Israël, dans cette tourmente et dans cette catastrophe humanitaire, on peut dire, ou alors, à ce moment-là, on se laisse aller à la désespérance, à l'incrédulité dont on va parler, parce que ça va être le sujet ce matin, et chose pareille, peut-elle se produire? C'est Dieu qui a parlé. Le prophète n'est que le porte-parole de Dieu. Mais cet homme, ce premier ministre, enfin cet homme qui est près du roi, lui va retourner les choses, et c'est un homme que l'on peut certainement croire, parce que c'est un haut personnage, et quand les hauts personnages parlent, on y croit quand même. Parole de Dieu d'un côté, parole d'un homme. Aussi élevé en dignité soit-il, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée va lui répondre, comme on dit du tac au tac, il va lui dire, tu vas le voir. Attends demain matin, il y aura de la farine, il y aura de l'orge, il y aura de la nourriture en suffisance, etc., etc. Tu vas le voir, mais tu n'en mangeras pas. Alors vous connaissez, si vous voulez relire l'histoire, vous pourrez la lire. Il a mal fini, ce pauvre homme. Il a été écrasé par les gens affamés. Et il a vu que le miracle s'est produit, mais il n'en a pas bénéficié à cause de son incrédulité, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage. Et peut-être nous trouvons cette parole également dans le livre des psaumes que j'ai cité souvent parce que moi je l'aime beaucoup. Et je pense qu'elle peut être un formidable enseignement pour l'Église d'aujourd'hui. C'est en forme de poème. Tandis que vous reposez dans des étables, il parle à des hommes de foi. Tandis que, ou à des chrétiens, ou à des croyants pour Israël. Et ça peut s'adresser aussi à nous. Tandis que vous reposez dans des étables. Les étables, c'est pour le repos des animaux. C'est pas pour les hommes une étable, on ne vit pas dans une étable. Et la suite, c'est tout simplement, elle est belle. Tandis que vous reposez dans des étables, avec votre misère, avec votre désespérance, avec notre négativisme, avec votre état de dépression, tandis que vous restez comme ça, regardez, les ailes de la colombe, elles sont chargées d'or et d'argent. Pour nous dire que si on regarde vers le ciel, la colombe c'est un animal qui symbolise la paix. Mais quand on regarde, au lieu de regarder au fond des étables qui sont froides, qui sont sombres, c'est pour les animaux, eh bien vous regardez les ailes de la colombe, elles sont chargées d'or et d'argent. Et ce que Dieu voudrait donner à son peuple, c'est des ailes chargées d'or et d'argent, et non pas la médiocrité. Non pas la médiocrité. Et ça va être le sujet justement de notre réflexion ce matin. Je voudrais commencer cette méditation par une histoire. Ah oui. Les histoires, il y en a des belles quelquefois, et avec beaucoup de sens. Elle est stupéfiante cette histoire, c'est l'histoire d'un âne qui tombe dans un puits. Oh là, où est-ce que je vais chercher tout ça? L'histoire d'un âne qui tombe dans un puits. Un jour, un vieil âne, tomba dans le puits de la ferme. Je ne sais pas comment il s'était débrouillé. Est-ce qu'il était borgne ou aveugle ou... Toujours est-il qu'il est tombé dans le fond du puits. Alors, l'âne, tout au fond, a été perdu, ça c'est clair, parce qu'il était dans l'impossibilité, et on comprend ce pauvre animal à quatre pattes, de remonter, ou de le remonter, parce qu'il devait certainement être lourd, tout simplement, eh bien, de le remonter jusqu'à la terre ferme. Et ça a été un souci pour le paysan en disant « qu'est-ce que je fais ? Il est vieux ?» Peut-être qu'il est malade. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux faire de ce... Comment puis-je intervenir? Alors, à un moment donné, après réflexion, le paysan, tout simplement, a décidé de laisser l'animal ainsi. C'est-à-dire que, voilà, on l'abandonne à son sort, il est comme ça, et en l'abandonnant de boucher son puits, parce qu'il ne l'utilisait plus. Puis bon, imaginez-vous, un cadavre, je pense que ça n'arrange pas la qualité de l'eau, C'est donc la conclusion. Alors, ce brave paysan s'est mis à combler cette cavité en y jetant des pelletées de terre, et puis une quantité de toutes sortes d'autres choses, naturellement, hein, jusqu'à combler totalement l'ouvrage. À un moment donné, eh bien, voilà, c'était, voilà, normalement, ça devait être comme ça, mais vous allez voir. Cependant, un miracle s'est produit. Tout est possible à celui qui croit, et tout est possible à Dieu. Hein. Un miracle s'est produit, et je voudrais quand même vous montrer que ça va beaucoup plus loin, peut-être, que ce que nous pensons. Et nous allons nous faire enseigner par un âne. Vous vous rendez compte? Enfin, je parle pas de moi. Hein. Merci. Enfin, j'y pense que je suis en train de le dire. Bon, Alain, pardonne-toi. Donc, le miracle s'est produit, et cette histoire, en tous les cas, elle nous enseigne sur la façon de surmonter les obstacles, oui, et les épreuves, de passer par l'insurmontable et de voir comment Dieu est capable de nous retirer du fond du puits. Peut-être y a-t-il des frères et des sœurs qui, vous avez le sentiment d'être au fond d'un puits, et vous regardez et vous dites « j'y arriverai jamais », parce que c'est étroit, mes puits, hein. Et vous êtes en train de patauger dans l'eau, et vous dites « mais c'est pas possible ». Et peut-être que vous espérez que quelqu'un de moyens humains ou des hommes viendront vous retirer, mais voilà, ils ne sont pas là. Donc, surmonter l'impossible, l'insurmontable. Figurez-vous qu'à chaque déversement de terre, au fond du puits, l'âne, qu'on croyait mort naturellement, hein, par la chute et autre chose, il recevait sur l'échine quantité de terre et de gravats. Ça tombait de tous les côtés, vous comprenez? Alors, ça, c'est pas très agréable quand ça vous tombe sur la tête. Vous savez, les épreuves, c'est ça. Hein. Vous priez pas, Seigneur, on m'envoie des épreuves pour que je sois sanctifié. Hein. Vous n'avez pas besoin de me demander, ça vient tout seul. Ça, c'est clair. Et vous êtes au fond de votre puits, naturellement. Hein. Alors, il recevait ça sur le dos, sur les chines, enfin, c'est ce que nous avons dit. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, l'âne? Il s'ébrouait. Oui, il s'ébrouait. Il se soquait. Il piétinait le sol. Il tassait la terre qui lui tombait dessus avec ses chabots. Et couche par couche. Vous avez deviné? Eh oui, je continue pas, j'arrête la prédication. Hein. Il rendait le sol comme un plancher jusqu'au moment où, contre toute attente, il monta peu à peu, parce qu'on sort pas de l'épreuve rapidement quelquefois. Hein. Ça arrive quelquefois, vous savez, hop, ça y est, c'est bon. Mais quelquefois, c'est toujours peu à peu. Et c'est là où justement il nous faut de la patience, en disant « Seigneur, tu ne fais rien, mais le Seigneur fait quelque chose. » N'allez pas penser, hein. Moi, ça m'est arrivé de penser « Seigneur, tu vas pas vite, hein. » Parce que bon, j'aimerais que ça aille un petit peu plus rapidement. Donc, il est monté peu à peu, il a remonté si bien qu'à un moment donné, à la stupeur de tous ceux, enfin du paysan qui était là, il est apparu en haut du puits, vivant. Vous avez un puits chez vous? Non, mais il y en a peut-être qui ont un puits. Hein. Moi, j'ai un évier, mais alors pour tomber dedans, il y a... Bon, puis je suis quand même assez fort et assez gros, assez grand, ça m'étonnerait. Mais bon. Vous savez ce qu'il a fait l'âme? Il avait fait tout bonnement de l'impossibilité de sa situation un ascenseur. Il n'était pas bête, il aurait pu se laisser enterrer. Hein. Mais il était vivant. Et il se servait encore du souffle de vie qu'il avait, couche par couche. Le temps que le pauvre paysan rassemble la terre et puis tout ça, ben il montait tout simplement, il en a fait un ascenseur et il s'est retrouvé à la lumière. Il s'est retrouvé donc à la lumière et à l'air libre. Est-ce que ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, qui quelquefois reposons dans des puits, des étables, d'une manière médiocre, notre vie spirituelle est médiocre, notre vie morale elle est médiocre. Nous pouvons être aussi dans la médiocrité parce que nous souffrons physiquement. Alors que Dieu voudrait nous montrer que la colombe, elle est au-dessus de notre puits. Colombe de paix, un signe de paix. Oui. Et que là, eh bien, notre vie, elle va être chargée d'or et d'argent. C'est pas des valeurs matérialistes hein, que je parle, mais des richesses de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, de la vie de l'esprit. Pour une fois, on a affaire à un âne intelligent. Mais vous savez que j'avais lu sur une revue géographique que les ânes sont très intelligents. Parce que quand ils disent non, hein. Vous pouvez taper dessus, ils bougent pas, hein. Mais quand ils veulent faire les choses, eh bien, ils les font. Et c'est très intelligent. Donc, c'est un âne intelligent. Et c'est une belle leçon, mes frères et sœurs, pour apprendre à surmonter les problèmes et les difficultés de la vie, y compris les difficultés d'ordre spirituel que nous pouvons avoir, et de savoir piétiner, de savoir écraser, de savoir dominer ceux qui nous emprisonnent, ceux qui nous empoisonnent, toute la toxicité finalement de notre condition, de notre nature humaine. Eh oui, quand on n'est pas bien, on se monte la tête, on se dit mais on n'en sortira pas, et puis on essaie de composer toutes sortes de choses et on se rend malade. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force, c'est dans la tranquillité et la paix que sera votre salut. Je le dis encore ce matin, frères et sœurs, moi je suis tout frais pour vous le dire en ce moment. Mais il y a quelque chose qui nous appartient, et je voudrais vous dire, parce que je vous l'ai dit, je vous supplie de l'écouter encore, mes frères et sœurs, nous avons eu des tribulations, des problèmes, de toutes sortes de choses. Nous ne sommes pas différents du reste des hommes, mais nous avons quelque chose que peut-être d'autres et beaucoup des millions n'ont pas, c'est que nous avons notre foi en Jésus. Et nous croyons à la parole de Dieu. J'illustre cette petite affaire à travers cet âne intelligent, mais je pense que on nous l'a dit, et je vous l'ai dit, et on l'a dit encore dernièrement, Myriam, elle me dit, mais bon, te tracasse pas, ça va s'arranger, tu vas voir, ça va revenir normalement, ça va revenir tout simplement, etc. Mais je pense que quand on est mal, quand on n'est pas bien, quand on est malade, eh bien on se dit, mais on n'a pas la pensée de piétiner, finalement, la toxicité, le poison que nous envoie à la fois notre nature, parce qu'on a tendance à s'inquiéter et à se faire du tracas, on n'a pas la présence d'esprit d'écraser, à commencer par l'ennemi, hein. On n'a plus la force de dominer tout ce qui, eh bien, pourrit notre vie. Et tout ce qui nous retient, tout simplement, au fond de notre misère, sans espoir. Parce que le but du diable, c'est de dire, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance, t'es fichu, c'est fini. On n'en parle plus. Ça vous est jamais arrivé de penser ça? Et de vouloir dire, eh bien moi je préfère mourir que de continuer la route. Eh non, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés, nous sommes ses enfants, et il fera ce qu'un père digne de ce nom fera, et en plus, c'est pas un père terrestre, c'est un père céleste. Et là, on peut compter sur lui. Mais il faut le vivre. Mais il y a des raisons si nous devons le vivre et nous y passer, de toute manière. Parce que c'est lui qui nous élèvera après l'épreuve, et qui nous libérera, quoi qu'il en soit, parce que c'est son plan, tout simplement. Alors, vous vous souviendrez de mon âne intelligent? Et moi, ça me fait penser à l'intelligence de la foi. Il a eu, quand il était dans la détresse, dans le fond du puits, l'âne, il a eu la pensée, au lieu de se laisser recouvrir, il a dit, moi, je vais en faire un tremplin, je vais en faire un ascenseur. Ah oui, c'est comme ça, hein? L'intelligence de la foi. Et cela demande tout simplement de la persévérance. Il aurait pu dire, c'est pas la peine, je vais mourir dans le fond de mon puits, je vais mourir dans ma médiocrité, je vais mourir dans ma tristesse, ou dans ma douleur, ou autre chose. Non. L'âne, il a fait, et il nous enseigne, la persévérance. Persévérez. Soyez déterminés à ne pas vous laisser mourir. À ce que les autres ou le diable vous fassent mourir. Il y a l'exemple de la Cananéenne, c'est un bel exemple d'intelligence de la foi. Parce que c'était une païenne. Sa fille était malade. Elle se précipite vers Jésus pour demander du secours. Païenne, c'était pas une Israélite, hein, donc elle avait pas une grande connaissance finalement, eh bien, de la foi des Juifs. Hein. Mais néanmoins, ce qu'elle savait, elle le savait. Et avec le peu que nous avons, eh bien, nous pouvons faire des miracles. Hein. Nous pouvons voir des miracles avec le peu. Hein. Et la Cananéenne, ce qui s'est passé, c'est que quand elle s'est approchée, les disciples ont commencé à faire barrière. Non. T'es une femme cananéenne, t'es une païenne, tu t'approches pas de Jésus. Ça, c'est les disciples qui font ça. Et combien de fois les disciples, hier ou aujourd'hui, ont empêché les autres de venir à Jésus? Je suis, je dois dire, hein. Bon, parce qu'ils ont leur idée préconçue, ils se disent, non, c'est pas possible. Bon, non, tout est possible à Dieu. Mais toujours est-il que les disciples ont dit non. Jésus va surenchérir en disant, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et là, l'intelligence de la foi. Parce que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est lui qui nous donne des idées géniales. C'est lui qui nous donne des indications par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est en nous. Il peut nous parler à travers sa parole, il peut nous parler à travers une prophétie, il peut nous parler à travers un frère, une sœur. Mais je vous dirais même que Dieu est capable de nous parler par des gens qui ne sont même pas convertis. Et là, c'est bon, hein. Je me dis, dis donc, hein. Seigneur, qu'est-ce que tu vas chercher? Eh ouais. Alors, l'intelligence de la foi. La Caléenne avait l'intelligence de la foi. Elle est repoussée par les disciples. Jésus Marc nous rapporte que Jésus lui dit, mais c'est pour Israël que je suis venu. Et vous savez, elle dit ceci, les petits chiens mangent les miettes à la table de leur maître. Ça, c'est de l'intelligence de la foi. Parce que elle a fait un petit peu comme notre brave animal qui est tombé dans le... Au lieu de se laisser écraser par les dissuasions des disciples, par la parole de Jésus qui n'était pas très encourageante, elle qui était une païenne, ben, couche par couche, elle a dit, mais les miettes, si les juifs ne veulent pas manger le pain du royaume de Dieu, et ils sont en train de le mépriser, ils sont en train de le mettre par terre, il y a des miettes par terre, moi qui suis rien, moi qui suis une païenne, une femme de pas grand chose, ma fille est malade, et bien moi je prends les miettes, et dans les miettes, il y a plus que nous pouvons nous imaginer. Alors si on n'a pas le pain entier, on a les miettes, mais les miettes du royaume de Dieu, ça vaut aussi bien qu'un pain, et le plus savoureux. Intelligence de l'esprit, mes frères et sœurs. On a vécu ça, hein, quelquefois, dans notre vie spirituelle. Je suis sûr que pour une grande partie d'entre vous, alors que vous étiez peut-être au bout du rouleau et vous saviez pas, vous aviez un mur, une montagne devant vous, et là, alors que vous vous peut-être désespériez, il y a une pensée qui est venue, et vous avez suivi cette pensée, c'était peut-être des miettes, mais des miettes qui apportent la délivrance, qui apportent la paix, qui apportent le secours, la guérison et toutes sortes d'autres choses. Écoutez, dans un psaume, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je pense que l'âne avait un cœur, mais ce n'est pas un cœur d'homme, il y a un cœur d'animal. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il a eu l'intelligence de changer le mal, en tous les cas de s'en servir, pour finalement arriver au bien, arriver à sa délivrance et à sortir du trou. Soyez attentifs quand Dieu vous parle, mes frères et sœurs. Soyez attentifs lorsque vous avez une parole qui vient dans votre cœur. Et vivez-la, cette parole. Bénissez le Seigneur. Il me parle plus, mais si, Dieu parle toujours. Un père de famille, quand il y a un enfant qui est en péril ou en danger, il ne va pas le contempler en disant, ben, on va voir comment il va se débrouiller tout seul, il faut qu'il s'en sorte. C'est indigne. C'est comme Jésus le raconte, hein. S'il vous demande un œuf, vous n'allez pas lui donner un serpent. Si vous lui demandez du pain, vous n'allez pas lui donner des pierres. À combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est à apprendre. Ça, c'est quelque chose. On va revenir sur notre officier. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle ?» Ah, hé, hey. Est-ce que vous croyez qu'il a la foi ou il est incrédule? C'est l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? L'incrédulité, c'est tout simplement le refus de croire. Le refus. Le rejet. Vous savez, il y a bien des gens autour de nous, incroyants, qui croient à des absurdités, à des sottises. Et ils les croient. Ils croient à des mensonges énormes. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ils disent « c'est une sottise ». C'est une inadvertance. C'est quelque chose qui... Ben non, c'est pas possible. Alors, une fenêtre au ciel. Mais des fenêtres, il y en a... Le ciel, il est en direct, finalement, avec la terre. Pas besoin de mettre des portes et des fenêtres. C'est lui qui mettait qui pensait fenêtres et portes. Ça se ferme. Donc, pareille chose arrivera-t-elle? Est-ce que quelquefois, nous ne sommes pas surpris, nous-mêmes, à dire c'est impossible? Dieu ne peut rien faire. Les hommes vous ont dit que c'était pas possible, et vous croyez plus les hommes que ce que Dieu nous dit? Qui lui dit, non, rien n'est impossible à Dieu. Ça stimule notre foi, ça c'est sûr. L'incrédulité, c'est une difficulté à croire l'incroyable humain, l'impossible à vue humaine. Et nous avons un encouragement ce matin, à travers, et nous allons l'ouvrir, dans Marc chapitre 9. Alors c'est intéressant de prendre la mesure de ce qui nous est dit. C'est un père qui est dévasté par la pathologie, le mal, de son fils. son fils est, on pourrait dire, épileptique. Enfin, un genre comme ça, hein, on va pas mettre des noms scientifiques, hein, naturellement, mais bon, peu importe. Hein, c'est, il nous est dit, Dieu guérit un jeune homme, un enfant démoniaque. Enfin bon, peu importe, c'est quelque chose d'assez surprenant pour les hommes que nous sommes. Et on amène cet enfant à Jésus. Les disciples ne peuvent rien faire. Ils sont complètement neutralisés. Et Jésus fait venir donc ce garçon. Et il nous est dit au verset 20, donc Marc chapitre 9 verset 20, « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba, se roulait par terre en écumant. » Là, il était vraiment au fond du puits, hein, le garçon. Hein, avec toutes les manifestations d'une impossibilité. Vous vous rendez compte, hein? Dès qu'il est en présence de Jésus, il est agité, la violence, il tombe, il se roule et il écume. Ah, qu'est-ce que l'on peut faire devant une situation comme ça? Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Un esprit de suicide. Une puissance ténébreuse pour le pousser à être détruit, cet enfant. Désespoir du papa. Hein. Terrible d'avoir une chose comme ça. Et de le vivre au quotidien. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont vécu avec des enfants qui étaient troublés, anormaux, enfin des choses comme ça. Et de le vivre jusqu'à la fin de leur vie, hein, les parents. Et on comprend la détresse du père, hein, naturellement. Alors le Père va dire cette parole à Jésus, mais, il y a un doute là, hein? Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. C'est une prière. Il y a peut-être le doute qui commence, il y a peut-être un scepticisme, le Père en a tellement vu, il a tellement essayé de méthodes, de moyens pour guérir son enfant, il est au bout. Il ne peut plus, c'est pas possible, il peut pas remonter le long du mur du puits là. Alors, il dit, mais si tu es, viens à notre secours, si tu peux, rien n'est impossible à Dieu. Jésus peut. Et en plus, Jésus veut. Alors, la parole, viens à notre secours et compassion de nous. Il demande l'amour. L'amour, la compassion pour la souffrance et la détresse. Jésus va lui répondre ces paroles. Si tu peux, ça c'est curieux quand même, si tu peux, il doute de Jésus à ce moment-là. Tout est possible à celui qui croit, mais alors il ne va pas en rester là. Aussitôt, quand il a entendu tout est possible à celui qui croit, mes frères et sœurs, ce matin, vous qui vous dépatez dans des problèmes qui n'arrivent plus à voir leur terme, je voudrais vous dire, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Vous me dites amen, mais il va falloir le vivre après le culte, puis dans la semaine qui va venir, hein. Parce que peut-être que vous allez passer par un test que le Seigneur va permettre pour savoir où vous en êtes. Hein. Oui, tout est possible à celui qui croit. Et le Père se sentant fragilisé et dire, mais est-ce que je suis au niveau? Est-ce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur? Alors, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois. Et si nous disons, je crois, sans autre chose, je crois, à ce moment-là, vous êtes déjà sur la voie de la délivrance et de la guérison. Je crois aujourd'hui et demain je ne crois plus. Ben, vous n'êtes pas sorti. Hein. Mais il va demander le secours parce qu'il va confesser. Viens au secours de mon incrédulité. Vous savez que l'incrédulité c'est un péché. Autant que l'adultère, autant que le vol, autant que le meurtre, etc. etc. Ça paraît pas comme ça. Hein. Non, parce que ça fait pas de bruit l'incrédulité. Ça nous laisse avec une certaine autonomie, une certaine liberté d'être ce que nous voulons et voire même d'orgueil. Autant la foi abaisse, enfin, elle nous rend humble et doux, autant l'incrédulité nous rend arrogant. Moi, je sais, moi, je peux, j'ai toute capacité de ceci et cela. Vous avez les deux versions, hein? Alors il dira, mais viens au secours de mon incrédulité. Frères et sœurs, peut-être quelquefois il faut se remettre en cause. C'est pas moi de le faire. Mais le Seigneur peut-être nous parle ce matin. Où en suis-je avec la foi et l'incrédulité? Vous allez me dire, ben parce qu'on est chrétien, on a été baptisé, on n'est pas des incrédules. C'est sûr que sur le plan de la généralité des fondamentaux de la foi, vous n'êtes pas incrédule, croyant Jésus. Mais dans les cas où nous avons vraiment besoin de voir notre foi en action, alors à ce moment-là, c'est une autre affaire. Et Dieu le permettra, hein, de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Parce que nous avons à faire face à l'opposition de nos pensées, de nos raisonnements et de notre logique. Ah, ça, c'est un poison. C'est quelque chose que nous n'avons pas abdicté. Hein. On n'est pas des éthérés, on n'est pas des martiens. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça nous joue souvent des tours. Le raisonnement, la logique, on fait des décomptes, on calcule d'une manière ou d'une autre. Et ça, ça nous joue des tours parce que ça ne permet pas à la foi, eh bien, de pouvoir tout simplement se libérer. Le pessimiste, je l'ai déjà dit, je le répète ce matin. L'homme qui est pessimiste de nature voit la difficulté, il voit les impossibilités à chaque opportunité de Dieu. Dieu lui donne des opportunités, mais il ne les voit pas. Donc il est renfermé dans ce poison qu'est l'incrédulité, parce que Dieu nous donne, nous l'avons vu tout à l'heure, des opportunités, il parle à notre cœur. Si vous venez au culte, c'est pour recevoir quelque chose, et vous n'allez pas repartir à vide, mais parce que vous avez un fond pessimiste, vous avez un fond négatif, ça ne peut pas pénétrer. Et là, vous pouvez tasser le fond du puits, hein, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a, il faut être guéri quelquefois de notre négativité, de notre pessimisme, de voir tout noir, de voir tout mauvais, de voir que c'est pas possible. C'est un problème. Hein. Donc, cet homme qui est dans cette situation, eh bien, il voit dans chaque opportunité ou occasion de croire au pouvoir de Dieu et à sa manifestation, il ne peut pas aller plus loin. C'est l'histoire des Hébreux, et je voudrais quand même dire quelques mots sur la question. L'histoire des Hébreux, lorsque Dieu a délivré les Israélites de leur servitude dans le pays d'Égypte, donc c'était des esclaves. Ils sont partis vers la terre promise, ça c'était Dieu qui les a dirigés, hein, d'en haut naturellement. Le voyage qui devait durer quelques mois, voire peut-être un peu plus, a duré 40 ans, c'est long 40 ans. Hein. Et il y a beaucoup de frères et de sœurs dans nos églises qui restent dans les étables. Pendant des années, une grande partie de notre vie. Alors que la colombe, elle est libre. Et elle est riche en plus. Alors, quand on suit un peu les périples des Hébreux dans le désert, ils étaient toujours à se plaindre, à murmurer, mais ça ne va pas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, etc. Et ils n'ont fait que tourner en rond, finalement, dans ce désert qui les horrifiait, parce que c'était quelque chose d'épouvantable. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut se poser des questions devant ces choses. Pourquoi de telles attitudes ? Elles sont très humaines, on peut les comprendre. C'est qu'après 4 siècles d'esclavage, écoutez bien, et nous avons été, nous, esclaves lorsque nous étions dans le monde. Faisons attention de ne pas avoir emmené quelques chaînes, même tout en étant chrétiens. Ça peut arriver. Donc, pendant 4 siècles d'esclavage, ils pensaient, donc c'est la logique, c'est la pensée, c'est cérébral. Et ils agissaient en conséquence de ce qu'ils pensaient comme des esclaves, les frères et sœurs. Vous n'êtes plus des esclaves. Nous avons été libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Alors ne retombez pas dans le pays d'Égypte. Ne retombez pas au fond du puits. Ne restez pas au fond du puits. Moi, je vous le dis parce que je voudrais que vraiment on avance. Spirituellement. Oui. Ils réfléchissaient comme des esclaves. Ils avaient toujours été esclaves de génération en génération. Et ils étaient incapables de saisir la promesse de Dieu en disant « Je vais vous donner et vous allez rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. » Ils en avaient perdu finalement l'enthousiasme de tout ça. Alors je voudrais dire que si notre passé à chacun a été un échec, ce qui peut être vrai aussi, hein, faites confiance à Dieu et non pas à vous-même. Eh oui. On a une expression en France qui n'est pas très très belle. Quand on est hésitant, on dit « je me tâte ». Eh oui. Non, vous avez déjà entendu ça, non ? Oui, on parle la même langue, alors c'est bien. Ouais. Et arrêtez de dire à Dieu, arrêtez de dire à vous-même, parce que quand vous le dites à vous-même, vous le dites aussi au Seigneur, parce qu'il habite en vous. C'est impossible. C'est trop dur. J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Moi, je voudrais vous dire ce matin qu'avec ce que vous entendez, avec la grâce et la foi que vous mettez dans le Seigneur, vous allez y arriver. Ok ? Je parle américain maintenant. Mais je parle en langue, hein ? Vous le savez. Dites plutôt, mes frères et sœurs, dites plutôt, je vais faire confiance à mon Dieu pour des choses plus grandes et pour des choses meilleures et pour des choses nouvelles, parce que c'est ça ce qui va nous donner la vie. Meilleure, nouvelle et plus grande encore. Ayez de l'ambition en ce qui concerne les choses spirituelles, car Dieu change les destinées si nous comptons sur lui et que nous nous détournons un peu de nos raisonnements. Hein. Il faut dépasser nos barrières mentales. dans le monde dans lequel nous avons été éduqués, nous avons grandi. Il faut dépasser nos habitudes de peur, de réflexes de peur, parce que la peur, elle nous aide toujours à nous cacher. Il faut dépasser les réflexes de crainte irrationnelle, parce que quelquefois, nous sommes avec une tête énorme en pensant des choses qui n'arriveront jamais, et nous nous rendrons malades. Ne contredisons pas le Seigneur sans cesse par notre incrédulité. Tu dis que tu es croyant, mais non, tu es plus versé dans l'incrédulité que finalement dans la foi. Et vous savez que toute décision prise que nous prenons aujourd'hui, prendrons, auront un impact sur notre avenir. Vous voulez pas changer l'avenir? Moi, j'ai envie de changer. Et c'est pas une fois de temps en temps avec un petit déclic qui me pousse un peu. C'est tous les jours que nous avons besoin de changer. Et nous avons besoin de changer parce que notre avenir, il est entre les mains de Dieu. Vous connaissez ce qui est dit? Moi, c'était le verset de ma conversion. Je t'appelle parce que j'ai préparé pour toi, eh bien, un projet de bonheur et pour te donner un avenir. Ben, moi, je crois qu'il y a encore de l'avenir, hein. Il y a de l'avenir pour l'église de Saint-Nazaire. Quoi qu'on en dise, même si quelquefois il y a des choses qui sont pas faciles. Ben, quand vous êtes venu ici, vous n'êtes pas dit tout ira bien, c'est formidable, c'est un blocos, c'est un refuge. Non. C'est pas ça. Et vous savez que vous allez laisser un impact à vos enfants quand ils vont vous voir vivre dans une authenticité de foi, parce que ils vont hériter la bénédiction. Et cette bénédiction sera encore meilleure que celle que vous avez reçue parce que vous leur avez inculqué une leçon. Ils ont vu papa et maman prier. Ils ont vu papa et maman passer par des détresses, par toutes sortes de choses. Ils ont vu papa et maman s'entendre s'aimer. Eh ben ça, c'est tout ça l'héritage que les enfants vont avoir. Et ils iront encore plus loin que nous. Ceux qui sont les témoins de notre vie de foi, c'est-à-dire pas seulement nos enfants, mais tous ceux qui sont autour de nous, et nos enfants également, sauront prendre la relève, parce que nous avons vraiment besoin de relève, hein, quand nous aurons disparu, parce que nous ferons comme le reste des hommes, nous disparaîtrons, mais nous allons laisser quelque chose. Et je dirais peut-être avec cette image, c'est que notre plafond de vie de foi, où là nous avons grandi, nous avons fait foi au Seigneur, nous avons fait des expériences, notre plafond de vie de foi va leur servir de plancher à eux, pour qu'ils aillent encore plus haut. Ici, il y a le plafond, et au-dessus, ce que vous voyez pas, l'interface, eh bien c'est le plancher. Et notre plafond, parce qu'ils auront vu notre réaction et notre foi, eh bien eux, ça leur servira de plancher, de fondement, et ils iront encore beaucoup plus loin que nous. Ils bâtiront encore plus haut et plus grand. Je termine. Mon histoire depuis, l'histoire de l'incrédulité, j'en arrive à quelque chose qui est important, c'est la foi et l'obéissance. Dans Luc, chapitre 5, ça va être la dernière citation, hein, si vous me le permettez, chapitre 5, versets 4 à 11. Et là, ça va vous rappeler des histoires qui sont bien connues, mais il y a quelque chose. Luc 5, 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, c'est Jésus, hein, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Dans l'épouvante qu'il l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, de Zébédée, enfin du fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et inscrit dans notre méditation ce matin. C'est la pêche miraculeuse. Je suis un pêcheur comme tout le monde, mais il m'est arrivé quand j'étais plus jeune d'être un pêcheur à la ligne. Quelquefois c'était bien, et quelquefois c'était désastreux. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai été faire là? Hein, c'est ça, hein? Mais bon, c'est un apprentissage aussi, hein, l'apprentissage de la patience. Alors, si on peut être patient pour des choses indifférentes de la vie, on peut être patient pour les choses, finalement, que Dieu nous a promises, hein. Ça c'est sûr. Pêche miraculeuse. Laquelle pêche miraculeuse répond à cette interpellation de Dieu? Voici, je suis l'Éternel, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part. » Voilà le tableau. Dieu dit, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'étonnant ? Mon ami, mon frère, ma sœur, pourquoi t'étonnes-tu encore devant la possibilité infinie de Dieu de faire des miracles dans ta vie, de faire des choses extraordinaires ? Y a-t-il quelque chose d'étonnant ? Parce que Dieu est merveilleux et il a beaucoup plus d'ambition que nous à donner que nous à le recevoir ce qu'il veut nous donner. Y a-t-il quelque chose d'étonnant ? Alors, j'inverse, on a parlé du pessimisme et je voudrais vous dire que l'optimiste, le chrétien, le croyant optimiste, voit dans l'opportunité de Dieu, dans les ouvertures que Dieu lui donne, d'une manière ou d'une autre que nous avons définie, dans chaque difficulté, alors à ce moment-là, il n'hésite pas à jeter ses filets. Il a travaillé toute la nuit, le pauvre. Pierre a travaillé. Ils sont venus désespérés comme métier de pêcheur le produit de temps en temps. Hein, il nous a dit à un moment donné, ben voilà, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, nous n'avons rien pris, nous n'avons rien pris. Quelquefois, c'est ce que nous disons, nous n'avons rien vu. Nous n'avons pas reçu, Seigneur, etc., etc. On est comme les Hébreux, quelque part. Hein, et c'est bien dommage. Hein. Eh bien, moi, je dis que Dieu nous rende optimistes. Pas des doux rêveurs. Pas des mystiques ou tout ce que vous voulez. Non, mais optimistes, réalistes. Et là, à ce moment-là, de pouvoir nous réjouir de toutes les situation dans lesquelles les bonnes et les mauvaises, hein, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, vous connaissez. Hein. Et cet optimiste-là, ce chrétien que vous êtes, cette chrétienne que vous êtes, eh bien, vous allez être rempli de cet optimisme de Dieu qui est l'enthousiasme du Saint-Esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand nous voyons une difficulté, nous n'allons pas baisser les bras, nous ne pouvons pas, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas où nous allons, etc. Mais vous allez voir dans la difficulté qu'il y a quelque chose, une réponse de Dieu. Et là, à ce moment-là, ça va vous galvaniser. Ça s'appelle la foi. Tout simplement. Devant les murs, eh ben je passe les murs. Et nous voyons que Pierre ne va pas hésiter à jeter son filet. Jésus lui avait dit « tes filets ». Ben, il a limité, mais heureusement, il a quand même jeté un. Mais quand vous voyez après les résultats, ce qui s'est passé, c'est que quand il a retiré son filet qui était plein à craquer, il a appelé les autres à venir et il nous a dit que tout débordait dans les barques. Alors imaginez-vous que Dieu est capable de multiplier au-delà de ce que nous pensons et même de ce que nous lui demandons. Et c'est ça ce que nous avons besoin de vivre, frères et sœurs. Vivre la vie de la foi. Vivre les expériences de la foi. Mais nous avons tout à notre disposition. Pourquoi nous renfermer au fond d'un puits ? Pourquoi nous renfermer dans tout ce qui est sombre au fond d'une étable ? Non, c'est ça. Et là, il va y avoir quelque chose de particulier pour les hommes qui ont été appelés dans cette circonstance, Pierre, les uns, les autres qui étaient avec Pierre, les compagnons, les associés. Et ça, c'est véritablement la vocation de l'Église, de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que les conséquences, c'est que devant le miracle de nos vies transformées, de nos expériences de foi, il va y avoir un appel, non pas à devenir des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Et là, maintenant, je termine là-dessus, l'Église est appelée à se mobiliser. On peut s'endormir au bout d'un certain temps dans une église. Le pasteur fait ceci, cela, il y a une petite équipe, mais c'est toujours les mêmes qui travaillent. C'est toujours les mêmes. Et on est quelquefois, je le dis au nom de mes frères, de mes sœurs, quel que soit le service, quelquefois on est vraiment fatigué d'être tout seul. Je ne veux pas pleurer. Hein. Alors comme on n'a pas le choix, on remonte nos manches, puis on le fait. Et moi je salue tous les frères et sœurs qui ont un certain âge, qui ont été à l'origine de cette église ou qui sont venus après et qui ont fait tout cela. Mais aujourd'hui, on ne peut pas leur demander pour la bonne raison qu'ils sont arrivés à un âge où véritablement nous devons les respecter. Mais maintenant, il y a peut-être les plus jeunes. Et ça, c'est pas le langage d'Alain Ouvrard. C'est le langage de tous mes collègues pasteurs. Partout. On va se retrouver avec rien du tout. Déjà, pour trouver un pasteur de succession, il faut déjà que... Hein, c'est difficile. Mais même la vie de l'église... La vie d'Église nous appelle, les uns et les autres, à être des pêcheurs d'âmes. Et puis, d'entretenir, de pouvoir vivre dans l'Église également. Imaginez-vous quelques instants, dans 10 ans, s'il n'y a plus personne pour tout faire, qu'est-ce que l'on va faire ? On va prendre une entreprise pour nettoyer l'Église, ça c'est sûr, on va la payer. Et puis ceci et cela, etc., etc. Puis dans la dimension spirituelle, ce sera la même chose. On comprend que quelquefois on peut être malade. Et que vous avez des pasteurs qui sont arrivés à la retraite et qui sont malades. On donne les sujets de prière. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. C'est pas un reproche que je fais, mais c'est pour dire, eh bien, avec le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Et moi, je dis que le successeur, il va arriver à un moment donné. Et puis le renouvellement, on a un piano, mais le piano, il peut pas fonctionner tout seul. Un jour, mon fils m'avait invité dans un restaurant. Et puis, quand on est rentré dans la salle, je me suis approché, il n'y avait pas de pianiste, mais il jouait tout seul. Vous avez vu ça? Formidable. Moi, je me prenais pour un virtuose. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis doué, c'est formidable. Alors, je voyais tout, je faisais ça, etc., etc. Je dis, c'est miraculeux. Non, mais ils avaient mis quelque chose dedans. Mais j'y croyais. Et après, Myriam, quand elle m'a dit, ben écoute, tu refais la même chose à la maison. Qu'est-ce que je me suis fait attraper? Vous savez comment ça se passe, hein? C'est l'audace d'y croire, mes frères et sœurs, que ce qui est impossible devient possible. Croire est un acte de volonté. Je jetterai le filet. Vouloir, c'est pouvoir. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va prier, on termine la réunion simplement et on bénit le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour l'intelligence de cet âne. Merci Seigneur parce que tu nous appelles finalement, Père éternel, à comprendre que tu ne nous as pas destinés, Seigneur, à être ensevelis sous les gravats, sous la terre, sous toutes nos misères humaines, mais à monter toujours de plus en plus pour aller vers la lumière et le grand air. Et nous te remercions et nous te bénissons. Merci pour également, en effet, cette cananéenne qui a su d'une petite chose insignifiante comme des miettes, eh bien, arracher à Jésus la guérison de sa fille. Nous te bénissons et nous te rendons grâce également, Père éternel, parce que la foi et l'obéissance, c'est quelque chose de formidable. Et chacun d'entre nous, ce matin, et peut-être les plus accablés, les plus déprimés, ceux qui sont dans la tristesse, puissent dire, Seigneur, eh bien, je vais jeter mon filet. Et nous voulons te rendre grâce parce que, à la clé de tout ça, il y a toujours, eh bien, une pêche miraculeuse. Tu te glorifies lorsque tu vois des hommes et des femmes te faire confiance. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu prends plaisir dans ton peuple qui croit. Et nous te louons et nous te bénissons et nous voulons te demander, Seigneur, s'il te plaît, augmente-moi la foi. Donne-moi la foi. Et s'il te plaît, délivre-moi de ces scories d'incrédulité, Seigneur, qui m'empêchent de vivre normalement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus qui nous a donné sa parole. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.